Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La République tchèque accepte le rétablissement temporaire des contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen. Les députés ont approuvé le projet d'augmentation d'un point des taux de TVA. Petra Kvitová dispute ce jeudi les demi-finales des internationaux de France de tennis. Les contrôles nationaux aux frontières de l'espace européen Schengen pourraient être rétablis temporairement à des conditions présentées comme strictes par les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne réunis ce jeudi à Luxembourg. Le compromis prévoit la possibilité pour les États membres de Schengen de rétablir des contrôles à leurs frontières nationales pour une durée de 6 mois, pouvant être prolongée pour 6 mois supplémentaires lorsque le contrôle d'une frontière externe de l'espace n'est plus assuré à cause de circonstances exceptionnelles. Les difficultés rencontrées à la frontière gréco-turque, accusée d'être trop poreuse par plusieurs pays européens, dont la République tchèque, ont motivé la décision des 27. Pour le ministre tchèque de l'Intérieur, Jan Kobetse, il s'agit d'une mesure extrême. Le ministre a toutefois déclaré que le compromis trouvé à Luxembourg était acceptable pour la République tchèque. La Chambre des députés a approuvé mercredi en première lecture le projet gouvernemental qui prévoit une augmentation d'un point des deux taux de TVA appliqués sur les biens et services. À partir de janvier 2013, les deux taux appliqués devraient donc passer à 15 et 21%. Malgré les protestations de l'opposition, la Chambre basse du Parlement a également approuvé d'autres mesures visant à réduire dans un proche avenir le déficit du budget de l'État à un montant inférieur à 3% du PIB. Environ 200 personnes, principalement de représentants syndicaux, ont manifesté jeudi après-midi devant le siège pragois du ministère des Finances. Ils ont protesté contre les réformes menées par le gouvernement afin de stabiliser les finances publiques et notamment contre l'augmentation des taux de TVA qui entraînera, selon les manifestants, une baisse du niveau de vie de la majorité des citoyens tchèques. La manifestation s'est déroulée dans le cadre d'une série de protestations devant différents ministères tchèques organisées ces derniers jours par la plateforme civique intitulée « Stoppons le gouvernement ». La rénovation de la centrale thermique de Tuchimetse a été officiellement achevée ce jeudi par le propriétaire de celle-ci, la compagnie nationale de production et de distribution d'électricité CEZ. Le coût de la modernisation s'élève à 26 milliards de couronnes, un peu plus d'un milliard d'euros. Cette dernière devrait assurer un bon fonctionnement de cette centrale thermique au charbon jusqu'en 2040, où les réserves locales de charbon seront épuisées. L'édition 2012, à peine achevée, les organisateurs du Festival international de musique Le Printemps de Prague ont déjà présenté les premiers contours de l'édition 2013. Et pour la première fois dans l'histoire du festival, le cycle de poèmes symphoniques « Ma patrie » de Beatrix Smetana, œuvre proposée traditionnellement en ouverture, sera exécuté par un ensemble français, l'Orchestre philharmonique de Radio France. Le même orchestre proposera ensuite d'autres concerts avec un programme essentiellement français. Pour la première fois de sa carrière, Petra Kvitová dispute ce jeudi les demi-finales des internationaux de France de tennis. La Tchèque, quatrième mondiale, est opposée à Maria Sharapova, deuxième mondiale. Aucune des deux joueuses n'est jamais parvenue en finale de Roland-Garros. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Médards, le temps sera couvert et pluvieux. Sur la majorité du territoire tchèque, le soleil fera quelques apparitions, notamment dans le nord du pays. Les températures seront comprises entre 20 et 24 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
L'Ombudsman dénonce le taux élevé d'enfants roms dans les écoles pour les élèves souffrant d'un léger handicap mental. Événement sportif parmi les plus attendus de cette année, le championnat d'Europe de football, co-organisé par la Pologne et l'Ukraine, débute ce vendredi. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique « Les Tchèques célèbres et moins célèbres », dans le cadre de laquelle Magdalena Hrozinková vous présentera la seconde partie de son entretien avec Pavel Fischer, actuellement directeur politique au ministère des Affaires étrangères. Merci de rester avec nous et bonne écoute.
«
Le nombre d'enfants roms dans les établissements scolaires spéciaux en République tchèque ne correspond pas à la place qu'occupe l'ethnie rome dans l'ensemble de la population tchèque. C'est ce qu'a constaté l'ombudsman Pavel Varvajovski, médiateur de l'État tchèque. Ce constat rouvre le débat sur cette disproportion qui avait déjà été critiquée par la Cour européenne des droits de l'homme. Les résultats d'une enquête initiée récemment par l'ombudsman sont évidents. Dans les écoles spéciales, appelées désormais écoles pratiques, se trouvent actuellement 32 à 35 d'écoliers roms, tandis que l'ethnie rome ne représente que 1,4 à 2,8% de la population de République tchèque. Les écoles spéciales devraient pourtant être réservées aux enfants souffrant d'un léger retard mental. Selon l'ombudsman Pavel Varvajovski, ce résultat est le signe que les enfants roms sont souvent scolarisés dans ces établissements sans raison valable.
Il est absurde de supposer que cette ethnie produit dès le début un tel nombre d'enfants souffrant d'un léger handicap mental. Cela veut dire que les décisions de placer ces enfants dans ce genre d'école ne sont pas justes et qu'elles concernent aussi des enfants qui n'ont rien à y faire. Évidemment, ces enfants développent par conséquent dès la petite enfance un certain handicap parce que sans une formation de qualité, leurs possibilités de s'imposer plus tard sur le marché du travail ne sont qu'hypothétiques.
Il s'avère que les personnes responsables de la scolarisation de ces enfants confondent le retard mental avec les problèmes réels d'enfants vivant dans des conditions d'exclusion sociale. Les employés du bureau de l'ombudsman ont effectué leur enquête dans 67 écoles tchèques. Au moment de leur visite, il y avait dans les classes 2081 élèves, dont 908 roms. Lucia Obrovska du bureau de l'ombudsman attire l'attention dans ce contexte sur l'attitude des écoles vis-à-vis des élèves roms.
Il faut dire, et c'est là où réside le problème, que dans les établissements d'enseignement spéciaux, il y a vraiment des conditions particulières. Ainsi, par exemple, le nombre d'élèves dans une classe est sans doute très inférieur à celui dans les classes des écoles standards. Cela signifie que la critique devrait être orientée surtout contre les écoles standards, soit la catégorie principale, parce que de nombreux établissements de cette catégorie rechignent à accepter des élèves roms.
Selon Lucia Obrovska, l'éducation est l'alpha et l'oméga de l'intégration sociale des Roms et c'est également un droit garanti par la loi. Elle constate que nous contribuons aussi à créer une génération des Roms qui ne trouveront pas de travail et ne seront que bénéficiaires de prestations sociales. Et l'ombudsman Pavel Varvajovski d'ajouter que ce genre de ségrégation détériore encore davantage la situation sociale et économique des Roms, les condamne au chômage durable et aggrave le risque des phénomènes pathologiques dans la société et d'une tension croissante entre l'ethnie rome et la population majoritaire. L'ombudsman présente ainsi au gouvernement plusieurs projets de mesures qui permettraient de mieux contrôler et réduire la scolarisation des enfants roms dans les écoles spéciales. Il constate cependant aussi que ce genre de ségrégation des enfants roms est malheureusement assez souvent toléré et même approuvé par leurs parents qui s'y sont déjà habitués et la considèrent comme normale. Rappelons dans ce contexte qu'il existe en République tchèque également une assez importante catégorie d'enseignants et aussi quelques spécialistes d'enseignement qui prennent la défense des écoles spéciales, qu'ils considèrent comme des établissements utiles et adaptés aux possibilités des enfants à problème. Événement sportif parmi les plus attendus de cette année, le championnat d'Europe de football, co-organisé par la Pologne et l'Ukraine, débute ce vendredi. À peine le match d'ouverture entre la Pologne et la Grèce achevé, la République tchèque fera son entrée dans la compétition contre la Russie à Wrocław. Pour leur cinquième participation consécutive à l'Euro, les Tchèques, en lesquels personne ne croit vraiment, pas même leurs supporters, entendent bien créer la surprise dès ce premier match. Guillaume Narguet.
Surprendre. Depuis le premier jour de leur préparation, les joueurs et l'encadrement de l'équipe nationale n'ont que ce mot-là à la bouche. Éliminés sans gloire dès le premier tour des Coupes du Monde et Championnats d'Europe 2006 et 2008, absente du Mondial sud-africain en 2010, la République tchèque est tombée dans l'oubli et les profondeurs des classements UEFA et FIFA depuis sa demi-finale malheureuse perdue contre la Grèce à l'Euro 2004 où son jeu avait alors enchanté l'Europe du football. Depuis, les départs départs successifs à la retraite de la glorieuse génération de Nedvěd, Poborský, Kohler et autres Schmitzer, la représentance est, il est vrai, redevenue une formation ordinaire et moyenne, représentante d'un petit pays d'Europe centrale mal connu du grand public. Une formation composée pour l'essentiel de joueurs aux noms curieux et parfois imprononçables. Dans le groupe des 23 joueurs appelés à disputer l'Euro 2012 par le sélectionneur Michal Bilek, ils ne sont d'ailleurs plus que 4 à avoir vécu l'aventure de l'Euro 2004 au Portugal. Ces 4-là, les plus expérimentés, Petr Čech dans les buts, Tomáš Rosický et Jaroslav Plachil dans l'entrejeu et Milan Baroš en attaque, constituent aujourd'hui l'ossature de l'équipe nationale. 4 éléments quasi indispensables pour envisager donc de surprendre à cet Euro polono-ukrainien. Surprendre malgré leur statut de petit poussé de la compétition, les Tchèques l'envisagent d'autant mieux depuis que le tirage de sort les a placés dans le groupe A en compagnie de la Pologne, de la Grèce et de la Russie, trois adversaires qui ne les effraient pas outre mesure et qu'ils estiment à leur portée. Et le premier de ces adversaires sera donc la Russie. Face à une équipe demi-finaliste du dernier Euro et invaincue depuis 14 matchs et février 2011, la République tchèque s'apprête à disputer d'entrée ce qui s'annonce peut-être comme le plus difficile de ces trois matchs. Pour espérer un résultat positif, l'entraîneur tchèque devrait pouvoir compter sur la totalité ou presque de son groupe. Seul l'attaquant Milan Baroš, victime d'une élongation à une cuisse, restait incertain à 24 heures du coup d'envoi. En revanche, le capitaine et meneur de jeu Tomáš Rosický, qui s'est entraîné normalement cette semaine, sera bien là, ce dont se félicitent tous ses coéquipiers, à commencer par le défenseur central Tomáš Sivok.
C'est super, personnellement j'ai surtout fait attention à ne pas lui mettre de coups, c'est toujours un peu la crainte qu'ont les autres joueurs à l'entraînement, il faut donc un peu se retenir dans l'engagement et les duels. Avec Jaroslav Plachil, Tomáš est un joueur clé pour nous, ce sont ces joueurs-là qui sont capables de faire la différence et notre jeu n'est pas du tout le même lorsqu'ils sont présents sur le terrain.
Révélation du football tchèque de ces deux dernières saisons, son partenaire dans l'entrejeu, Petr Hiráček, précise plus en détail en quoi la présence de Tomáš Rosický est essentielle pour l'équipe tchèque.
C'est celui qui sait prendre ses responsabilités dans les moments importants ou difficiles. C'est notre capitaine, mais c'est aussi un leader dans le sens où il nous apporte beaucoup de créativité. Tomáš n'a pas peur de demander le ballon quand d'autres joueurs auraient peut-être tendance à se cacher.
Surprendre, les Tchèques l'envisagent également parce qu'ils ont le sentiment de disputer cet Euro pratiquement chez eux. C'est en effet à Wrocław, distante de seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière tchéco-polonaise, que la représentance jouera ses trois matchs de groupe. Ainsi, là où seuls quelques centaines de supporters français effectueront le lointain déplacement jusqu'à Donetsk en Ukraine pour suivre l'équipe de France, les hommes de Michal Bilek, eux, pourront compter sur le soutien de milliers de fans et pas seulement tchèques. Arrivés sur place dimanche dernier, après avoir effectué en train les 280 km qui séparent Prague de Wrocław, Petr Čech est très heureux de l'accueil qui a été réservé à lui et ses partenaires par les Polonais.
C'est à côté de chez nous et la culture ressemble beaucoup à la nôtre. Quand nous avons traversé les villages polonais lors de notre voyage en train, nous avons bien vu que tout ressemblait à ce que l'on connaît chez nous. Je pense que les habitants de Wrocław sont aussi très heureux que nous soyons là, car nous sommes la seule équipe à rester sur place durant toute la durée du championnat. Cela permet aux gens d'être en contact direct avec nous et de vivre plus intensément cet Euro. On sent bien que cela leur fait plaisir et qu'ils nous supportent. J'espère que ça continuera comme ça.
Après la Russie, donc vendredi, la Grèce mardi, puis la Pologne en fin de semaine prochaine, constitueront la suite du programme de la République tchèque. Mais si le match contre la Pologne devait s'avérer décisif pour la qualification pour les quarts de finale, nul doute alors que même les habitants de Wrocław ne seraient plus supporters des Tchèques. Le contraire serait une surprise en laquelle même Petr Čech, Tomáš Rosický et leurs partenaires ne croient pas.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Dans les Tchèques célèbres et moins célèbres, aujourd'hui, nous vous proposons la seconde partie de l'entretien avec Pavel Fischer, qui est actuellement directeur politique au ministère des Affaires étrangères. Jusqu'à 2003, Pavel Fischer était conseiller politique de l'ancien président Václav Havel avant d'être nommé ambassadeur tchèque en France, fonction qu'il a exercée jusqu'en 2010. Il évoque ces deux étapes importantes de sa carrière professionnelle au micro de Magdalena Hrozinková.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Avant de rejoindre l'équipe du président Václav Havel, Pavel Fischer a entre autres enseigné le français au lycée franco-tchèque Jan Neruda à Prague. Il a également été secrétaire personnel de l'évêque auxiliaire František Lobkowicz et directeur adjoint à l'Institut de communication. Pendant 8 ans, de 1995 à 2003, il a donc travaillé aux côtés de Václav Havel, d'abord comme chargé de communication, puis comme conseiller politique du président. Au micro de Radio Prague, Pavel Fischer a évoqué un des moments les plus forts et les plus touchants qu'il a vécu avec Václav Havel.
Je crois que un des événements très importants, c'était la disparition de son épouse Olga. Il y a un vrai avant et un vrai après. Si vous lisez ses écrits, si vous lisez un peu ce qu'il a noté, peut-être la rupture n'est pas évidente. En 89, lorsqu'il est devenu le président de la République, peut-être parce qu'il y avait peu de choses écrites à l'époque, mais je crois que la vraie rupture, le vrai changement, la vraie cassure sur le plan humain, c'est l'affaiblissement et la disparition de Olga. C'était une femme terrienne, très concrète, très lucide. C'était pour lui un ancrage. Et là, il a perdu quelque chose d'important, non seulement pour l'homme du théâtre ou l'homme des lettres, mais aussi pour l'homme public qu'il était à l'époque. Je crois que c'était une épreuve que j'ai pu vivre non loin de lui. Je n'étais pas proche à l'époque de lui. Mais j'ai pu observer combien ça l'a inspiré et combien de force il avait dû déployer. C'est d'ailleurs le moment où il écrit un discours. C'était une des particularités parce qu'il écrivait ses discours lui-même. Donc il rédigeait les discours officiels de ses propres parutions publiques. Et à ce moment-là, il est invité à Hiroshima pour une conférence sur l'avenir de l'espérance. Et il aborde quelque chose de spécial. Ça m'a beaucoup frappé. Il parle de la mort, mais avec une lucidité et avec une langue qui n'est pas la langue des prêtres, la langue de l'évêque pour lequel j'ai pu travailler. C'était la langue de tous les jours, d'un homme littéraire, et pourtant tellement précise et tellement concrète que je me suis rendu compte que la capacité de Václav Havel de nommer chat un chat, de nommer l'espoir ou l'espérance par ses propres termes du quotidien était invraisemblable. J'ai compris qu'il avait un potentiel de nommer l'innommable, d'approcher des choses difficiles avec la force de sa plume et de son esprit. D'ailleurs, si vous lisez attentivement ce texte, vous regardez, vous observez avec stupéfaction que ce n'était pas l'homme Václav Havel uniquement, c'était aussi une réflexion de son action, et peut-être même une réflexion avec un brin d'humour. Donc, il agissait, il écrivait, mais toujours il se mettait aussi en perspective lui-même, donc c'était une personnalité, au bout du compte, très drôle, qui avait le sens de l'humour et qui aimait bien rire, et non seulement à propos des autres, mais aussi à son propre propos.
Après avoir quitté l'office du président de la République, vous êtes devenu ambassadeur de la République tchèque en France. Vous avez exercé cette fonction jusqu'à 2010. Quels ont été les moments forts de votre mission? Est-ce que vous avez pu, au-delà, je suppose, de l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne en 2004, est-ce que vous avez pu aussi apporter en tant qu'ambassadeur une touche personnelle à cette mission?
J'ai découvert une fonction d'ambassadeur, qui a une valeur dans le monde d'aujourd'hui, car une ambassade ou un ambassadeur, c'est un visage. C'est une personne qui a une adresse. C'est une personne avec un passé, mais aussi avec un présent et un avenir, qui doit incarner un pays dans sa richesse. Et du coup, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui explique, c'est quelqu'un qui est proche, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui ouvre les portes. Mais aussi, c'est quelqu'un qui, si c'est nécessaire, recadre, rappelle peut-être les racines, les engagements passés, les victimes sur le champ d'honneur commun, ou les victimes communes souvent, mais aussi qui jette une lumière sur l'actualité qui est souvent beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que les unes de journaux de grand tirage. Car nous vivons dans une période qui est très rapide. On nous rappelle combien l'Internet est important et les réseaux sociaux, mais les gens vivent autrement. Ils vivent dans le concret de leur ville, de leur société. Ils ont besoin de toucher. Ils ont besoin d'écouter, de se rencontrer, aussi de dire l'indicible. Et donc pour l'ambassadeur, en général, Tout ce que peut apporter la culture, par exemple, comme phénomène de dialogue, comme l'espace de dialogue entre les peuples, les langues, les civilisations, c'est quelque chose de fondamental. Donc, si vous me posez la question, quelles étaient ces années de travail et de vie en France, pour moi, dans cette fonction d'ambassadeur de la République tchèque, je dois dire que c'était une formidable expérience, aussi beaucoup d'amitié que j'ai découvert et que j'ai gardé depuis, mais aussi une belle traversée que je n'ai pas fait tout seul. J'étais accompagné de mon épouse et de mes enfants, et Dieu sait que les enfants sont parfois de très bons ambassadeurs à leur tour.
Justement, comment est-ce que votre famille, vous avez 4 enfants, votre famille et votre épouse se sont adaptés à la vie en France et se sont ensuite réadaptés à la vie en République tchèque?
Je crois que les enfants vous ouvrent les portes, car très vite vous êtes invité dans les fêtes de l'école, dans les fêtes d'anniversaire, dans les fêtes du quartier. Et donc, sans vous en rendre compte, vous appréhendez un pays par ce truchement de famille, de ces week-ends, de ces soirées très conviviales, finalement avec beaucoup plus de lucidité que la lecture des journaux ou les émissions de télévision peuvent l'apporter. Car rencontrer les gens là où ils vivent, dans leur quotidien, c'est quelque chose. Et nous avons pu vivre plusieurs années sur une même adresse, dans un quartier, dans une rue, où les gens nous connaissaient, nous reconnaissaient, traversaient parfois pour nous saluer, où nous traversions à notre tour la rue pour les saluer de notre part. Et ça laisse des traces, ça laisse des racines. Et notre souci, c'est de ne pas les voir faiblir. Et donc, soyez assurés, nos enfants gardent les liens avec des amis de l'école, passent des vacances ensemble, et on fait tout pour qu'ils gardent cette double appartenance, appartenance en France et aussi appartenance tchèque qui est la nôtre.
Question plus personnelle, Vous êtes croyant. Est-ce que dans votre carrière politique et dans votre vie privée, il y a eu des moments où la foi était pour vous l'unique source d'espoir?
Je crois que si on quitte les questions matérielles et on essaie de les regarder par un regard spirituel, on n'est jamais seul. Mahatma Gandhi un jour a dit: il y a des éléments ou des événements dans lesquels on est tellement dépourvu d'assurance que c'est le seul moyen de s'en sortir par l'espoir et par l'espérance, par la prière. C'était Mahatma Gandhi. Et donc, ce n'est même pas pour un chrétien que je parle ainsi. Je crois que la condition humaine nécessite de se sentir à l'aise matériellement dans son quotidien, mais elle a aussi besoin d'une grande énergie spirituelle, sinon les choses ne donnent pas sens. Et je dois dire que cette quête de sens a été toujours la mienne, et je peux vous faire une confidence, en France, il y a quand même des trésors superbes, non seulement sur le plan intellectuel strictement dit, mais sur le plan spirituel en général. Vous avez ces communautés religieuses, ces lieux symboliques d'une présence, d'un essor spirituel qui dépasse l'ordinaire. Le Mont Saint-Michel, quelle beauté d'architecture et de culture. Vous avez des sites dans lesquels viennent se ressourcer des pèlerins de chez nous, des pèlerins tchèques, pour se détacher un peu de leur quotidien et prendre une perspective. Et donc, j'étais un peu gâté, je sais, mais en France, il y a quand même des choses à ne pas manquer, et elles ne sont pas toujours du domaine de la gastronomie, et Dieu sait que j'aime bien apprécier les choses bonnes du pays que la France propose.
C'était donc le directeur politique au ministère des Affaires étrangères, Pavel Fischer, au micro de Magdalena Hrozinková. Merci d'avoir suivi cette émission et de rester fidèle à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.